réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, Sider ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, en ce mercredi 9 mars 2016. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30 avec au programme notre tête chercheuse, l'historienne Annie Sartre-Fauria. Depuis lundi, elle nous raconte l'histoire de Palmyre, l'histoire au présent tragique, avec les destructions et les pillages, mais aussi l'histoire avec des moments de paix, de prospérité. Aujourd'hui, on va parler d'ailleurs de l'apogée de Palmyre. En deuxième partie, comme tous les mercredis, l'actualité cinéma, je serai avec Valérie Dréville, qui est comédienne principale dans le film de Pascal Breton qui sort aujourd'hui, Suite armoricaine. Retour à Palmyre par Annie Sartre-Fauria. Bonjour.
Bonjour.
Troisième épisode, l'apogée de Palmyre. Et l'apogée de Palmyre, c'est au deuxième et au troisième siècle.
Hein. Oui, c'est deuxième, troisième siècle. Oui. Exactement. Palmyre, donc comme je l'ai dit précédemment, se développe du point de vue urbain à partir du début de notre ère, début du premier siècle de notre ère, par donc des réfections de temples d'abord, pour leur donner un habillage gréco-romain, c'est-à-dire pour que ces temples ressemblent davantage à, on va dire, la culture commune qui est celle du Proche-Orient et du Proche-Orient romain. Donc le temple de Bel, le temple de Baal Jamin dont on a parlé lui aussi, nous avons un texte qui était malheureusement gravé sur une des consoles du portique de façade, qui nous expliquait que ce temple avait été rénové et embelli par un citoyen de Palmyre qui s'appelait Malais Agrippas en l'année 130 après Jésus-Christ, parce qu'il avait profité de l'occasion de la venue de l'empereur Hadrien. Hadrien est venu à Palmyre en 130 et il a dû être très très bien reçu par les Palmyréniens, par les notables riches qui ont pourvu à tous ses besoins et aux besoins de sa suite. Notamment, le dénommé Malais Agrippa avait fourni l'huile pour que on puisse aller dans le gymnase pour s'exercer, etc. Donc, on a des textes qui nous montrent donc comment progressivement cette ville s'est développée sur le plan monumental. Les grandes avenues à colonnades, elles se dotent de grandes avenues à colonnades, la colonnade transversale, la grande colonnade qui traverse le site de part en part et qui aboutit au Grand Arc et qui devait se prolonger encore au-delà vers le Temple de Bel. C'est la construction d'un théâtre, c'est la construction d'une grande place de commerce qu'on appelle une agora, qui est une grande place fermée avec des portiques à l'intérieur, avec de multiples colonnes, des statues, des bienfaiteurs de la cité. Donc c'est une ville qui va se doter de tous les monuments nécessaires à une vie urbaine agréable, des thermes également, des fontaines publiques, etc. Donc c'est la ville romaine, d'époque romaine, qui est construite donc entre le premier siècle, le début du premier siècle de notre ère, et on va dire le début du troisième siècle. Après, nous n'avons plus de traces de construction ultérieure. D'ailleurs, même à l'époque de Zénobie, qui pourtant a fait briller Palmyre particulièrement, on ne peut pas lui attribuer de construction particulière. Donc, il semble que les constructions se terminent, disons, au début du IIIe siècle, par le Grand Arc. Mais bon, la ville avait déjà pratiquement tous les monuments nécessaires. Alors, il n'y a qu'un monument que l'on n'a pas retrouvé. On n'a pas retrouvé de stade, d'hippodrome à Palmyre. Et on se pose la question de savoir si ça n'est pas là la limite de l'hellénisation de cette cité et de ses habitants. Parce que se produire dans un stade pour des concours, ça impliquait que l'on soit nu, puisque les concours à la grecque se pratiquent nus. Et peut-être y avait-il là une réticence de la part de la population. On n'a pas retrouvé le stade, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il restait 80% du site à fouiller encore au moment où la guerre a éclaté. Donc on va peut-être le trouver un jour, de même qu'on va peut-être retrouver l'amphithéâtre dont une photo aérienne semble témoigner de l'existence. Mais là encore, c'est une photo aérienne, il faudrait faire des fouilles, et là, pour l'instant, évidemment, ça n'est pas possible. Donc on a affaire à une ville qui prend l'aspect de ces belles villes de l'Orient, comme Éphèse, comme Antioche, qui se dotent de tous les monuments nécessaires à une vie agréable. Et tout cela est payé par les palmyréniens. C'est-à-dire que l'empereur n'a pas mis la main à la poche du tout, ça n'était pas l'habitude d'ailleurs. Donc les palmyréniens, eux-mêmes, par le biais de leurs revenus, de leur fortune, et ce sont souvent les plus riches qui sont évidemment sollicités pour participer à ça, ce sont eux qui financent les constructions de monuments. Alors parfois la totalité, parfois des petits morceaux, parfois c'est une colonne, deux colonnes, etc. Mais ce sont les habitants localement qui ont donné cet aspect magnifique.
Quand vous dites ce sont les habitants localement, ça veut dire que les gens n'arrivaient pas de partout de l'Empire romain pour s'installer à Palmyre, pour profiter de la splendeur économique de Palmyre.
Oui, il pouvait y avoir des gens qui venaient de l'extérieur, mais il y avait une limite, si vous voulez, c'est que Palmyre était une cité. Et être une cité, ça veut dire qu'on a des institutions et que pour participer à la vie de la cité, il faut en être citoyen. Or, sont citoyens de Palmyre, les gens qui sont nés à Palmyre, de parents citoyens déjà de Palmyre, et ceux qui éventuellement peuvent acquérir par honneur la citoyenneté palmyrénienne. Mais ce sont les citoyens de la cité qui sont les organisateurs, on va dire, de la politique locale. C'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal. Il y a des magistrats qui gèrent la cité dans les différents domaines. Il y a quelqu'un qui gère le marché, il y a quelqu'un qui va gérer le gymnase, il y a quelqu'un qui va gérer tout ce qui relève de la gestion d'une cité. Donc, si vous voulez, tous ceux qui ne sont pas citoyens peuvent participer s'ils veulent, mais il y a quand même l'organisation locale qui prend les décisions lors du conseil municipal et qui les fait appliquer ensuite par les magistrats.
Et Rome dans tout ça ? Est-ce que Rome a son mot à dire ?
Ah mais absolument, parce que Palmyre est une cité qui appartient à l'Empire romain. Donc le gouverneur de la province de Syrie a autorité, bien entendu, pour faire appliquer les décisions impériales, bien sûr. La cité se gère dans son petit domaine local comme elle veut, mais dans le respect évidemment des lois impériales. Et le gouverneur aurait toute l'attitude pour obliger la cité à faire les choses si elle ne le veut pas. Par exemple, payer les impôts, il a absolument payer les impôts à Rome. Tant que la cité n'a pas obtenu le statut favorable de colonie romaine, ils doivent des impôts. Alors c'est vrai qu'ils vont obtenir ce statut particulier de colonie romaine, colonie de droit romain, au début du IIIe siècle, et ils vont l'obtenir avec ce qu'on appelle, je suis désolée d'utiliser du jargon, mais ce que les historiens appellent le jus italicum, c'est-à-dire le droit italique qui assimile Palmyre au droit de l'Italie, ce qui veut dire que les citoyens deviennent d'abord tous citoyens romains et ne payent plus les impôts, l'impôt foncier ou l'impôt par tête dû à Rome.
Que ce sont les palmyriens qui se sont battus pour ce statut.
Alors, ben, évidemment, c'est un statut privilégié. Par conséquent, toute cité aspire à avoir un privilège qui va la distinguer des autres. Mais à l'époque où Palmyre reçoit ce privilège, déjà, tous les habitants sont de l'Empire, quand ils étaient libres, sont devenus citoyens romains, en 212. Le Ius Italicum, c'était un bonus supplémentaire, parce que si on avait donné le Ius Italicum à tout le monde, l'État n'aurait plus fonctionné, il n'aurait plus eu d'argent. Donc, le privilège supplémentaire qu'obtient la colonie, évidemment, la cité se bat pour l'obtenir. Alors, on fait des démarches auprès de l'empereur, on écrit, on se fait recommander, etc. Mais au moment où ça se produit, c'est dans une situation historique un peu particulière, ça se produit sous un empereur dont la famille est originaire de Syrie. Donc ça se produit soit sous Sévère Alexandre, soit sous Elagabal, soit sous Sévère Alexandre,
qui sont les descendants. Vous voulez dire que c'est toute la fois politique et par alliance.
Oui, voilà, parce que c'est un petit peu compliqué, mais l'empereur Septime Sévère va épouser en deuxième noce une femme qui est la descendante des grands prêtres d'Émèse, de la ville d'Émèse, qui est pas très loin de Palmyre, hein, on est à 100 km au nord-ouest de Palmyre. Et cette femme, c'est l'impératrice Julia Domitia Comna, qui va donner naissance à Caracalla et à Geta, les deux fils donc issus de ce mariage. Et elle est en même temps la sœur, elle a une sœur qui elle-même a deux filles, dont les fils vont devenir empereurs à leur tour. Donc on a là une espèce de dynastie, on va dire, africano-syrienne, puisque Septime Sévère, lui, est originaire d'Afrique, mais Iulia Domna, elle est originaire des Mèzes, elle est syrienne. Et donc les Sévères ont eu des liens un peu particuliers avec la Syrie, d'autant que Septime Sévère, quand il a pris le pouvoir, il a été contesté par un compétiteur, et que Palmyre avait pris son parti. Donc, vous voyez, il y avait des liens politiques, des liens qui unissaient, on va dire, Palmyre avec la dynastie sévérienne.
Et s'il fallait situer maintenant Palmyre dans la géopolitique de l'époque, comment déjà à l'intérieur se faisait la gestion de la ville, la gestion politique et sociale de la ville, et comment, avec les conflits qu'il y avait à l'époque, Palmyre va se positionner?
Alors, la gestion de la ville, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au plan local, c'est un conseil.
Un conseil
avec des notables riches.
Plutôt des notables.
Évidemment. Ouais. Bon, vous savez, on est dans un système d'oligarchie plutocratique. C'est-à-dire que ce sont les riches qui dirigent.
Voilà. Avec un conseil des sages. Ouais.
Alors, le peuple, tous les gens qui sont citoyens de la cité, bon, on voit au chapitre, enfin, les hommes. Le peuple élit ou désigne les magistrats. Le conseil, bon, siège dans le conseil les notables importants, soit des anciens magistrats sortis de charge, soit des représentants de grandes familles de l'Oasis. Et donc, ce sont ces gens-là qui prennent les décisions au niveau local. Mais c'est vrai que tant que les choses se passent bien, que c'est la paix, que le commerce marche bien, que les relations avec l'empereur sont apaisées, il n'y a pas de problème. Là où il va commencer à y avoir des problèmes, c'est lorsque les frontières de l'Empire romain vont être attaquées, et notamment la frontière de l'Est va être attaquée par les Perses. Et là, le commerce que Palmyre entretenait avec la Mésopotamie va subir des contre-coups de cette situation militaro-politique. Et du coup, c'est dans Palmyre que va émerger une force de défense de l'Empire, parce que les empereurs sont occupés sur le Rhin, sur le Danube. Toutes les frontières sont attaquées en même temps au IIIe siècle. Et donc les empereurs passent leur temps à courir d'un point chaud à l'autre. Et l'Orient va se trouver à un moment complètement livré à lui-même, faute d'avoir des forces suffisantes pour le défendre. Et c'est de Palmyre que va venir une partie du salut de l'Empire sous l'autorité de Odaïnat, d'un notable palmyrénien, qui va très vite gravir les échelons de responsabilité. Il est promu sénateur de Rome, il devient consul, l'empereur va lui conférer la possibilité de mener les troupes, non seulement qu'il peut lui recueillir autour dans le territoire de Palmyre, mais les troupes romaines aussi. Et grâce à Odaïnat, l'Empire romain va réussir à contenir les avancées des Perses qui viennent piller régulièrement la Syrie.
Merci beaucoup Annie Sarthe-Forian. On se retrouve demain à la même heure pour la suite de notre histoire sur Palmyre. Retour à Palmyre. Si vous voulez écouter les trois premiers épisodes, en quelques clics, vous pouvez tout avoir. L'écoute en différé ou le podcast en quelques clics à partir de franceculture.fr.
Makes me wonder why your lights are gone now. How can you face respective thoughts and watch them die in birth? The thing is not to cover it, you have to let it shine. I know it's kind of hard to fall, but you have to trust them all. Beats burning, even though it's raining. Your screams are killing, but you don't have a clue. No.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité ce matin, Valérie Dréville. Bonjour.
Bonjour.
On vient d'écouter un compatriote de Björk. Comme quoi, il n'y a pas que Björk. Axel Flovent, qui rêvait lui aussi de plage, bitches. Valérie Dréville, vous tenez le rôle principal dans un film qui sort aujourd'hui en salle. Suite armoricaine, écrit et réalisé par Pascal Breton. C'est un drame intimiste. Ça se passe durant une année universitaire à Rennes. Et c'est une année vécue par deux personnages. Le personnage de l'enseignante en histoire de l'art qui quitte Paris pour retourner s'installer à Rennes où elle a vécu plus jeune, que vous incarnez. Et dans l'université, Rennes 2, pour la nommer, il y a un autre personnage, un élève qui n'a pas encore 20 ans et qui lui, on ne sait pas d'où il sort vraiment, mais autour de ces deux personnages, de deux générations très différentes, il y a les fantômes du passé, qui sont d'ailleurs des fantômes qui sont toujours en vie. C'est un film sur le temps qui passe, sur l'idée qu'il ne faut peut-être pas revenir là où on a été jeune.
Ben oui, ça comporte un danger. Vous parlez de fantômes, mais les fantômes, c'est pas seulement les autres, c'est aussi soi, c'est-à-dire on retrouve la personne qu'on a été, et la personne qu'on a été, elle a forcément quelque chose à vous dire par rapport à ce que vous êtes devenu. Donc c'est une expérience dangereuse, oui.
Et pour parler de votre personnage, comment vous avez travaillé avec Pascal Breton ce film ?
Ben, justement, moi, c'est ce qui me plaît, c'est quand j'ai pas la sensation de travailler et que les choses se font intuitivement. Ça a l'air un peu bizarre, mais parfois, oui, les pensées se transmettent entre les gens.
Vous avez beaucoup discuté autour du
personnage. On a discuté, oui. Elle m'a transmis, je dirais, une forme de sensibilité. Et finalement, c'était tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas besoin d'insister plus. Mais je crois que c'est la qualité des grands directeurs d'acteurs. C'est d'arriver à mettre les gens sur le bon chemin, avec peu de choses.
Et comment vous-même, avec vos expériences, Valérie Dréville, vous avez pu nourrir le personnage de fiction, le personnage du film ?
Bah, de différentes manières. Je me suis évidemment documentée sur l'histoire de l'art par rapport aux cours que je devais faire, aux peintures que je devais analyser dans les cours, mais pas seulement dans les cours, parce que les choses sont les vases communicants, hein, ça, tout ça c'est poreux, et donc étudier la peinture, c'était aussi travailler sur l'énergie même de Françoise. Et puis j'ai aussi fait des recherches sur cette partie, on va dire, un peu chamanique du film. Le rapport aux plantes, à leur signification, à leur nom, les guérisseurs, ou comme on dit en breton, les discounteurs. Et là, j'ai vraiment découvert une dimension de la Bretagne telle qu'elle n'est plus complètement aujourd'hui, parce que ça tend à disparaître, mais que je ne connaissais pas, et qui m'a, je dois dire, vraiment touchée très profondément.
Est-ce que ça a été un tournage particulier, puisque Pascal Le Breton explique qu'elle a été obligée de faire ce film qu'avec des étudiants ?
Oui, puisque ce sont... Enfin, le personnage principal, c'est à l'université, donc on était tout le temps avec des étudiants.
Des non-professionnels, donc ?
Oui, mais ce sont des non-professionnels qui sont presque professionnels, puisqu'ils sont étudiants en cinéma, donc ils s'intéressent énormément à la chose. Et puis, travailler avec des non-professionnels, on peut faire un travail professionnel avec des non-professionnels. Comme on peut faire un travail amateur avec des professionnels. Il n'y a pas de distinction si forte.
Il n'y a pas plus de répétition, plus de travail, non ?
Non, il s'agit de bien comprendre ce qu'on a à faire là ensemble, c'est tout.
Et là, par exemple, vous êtes retrouvés sur...
Eux, ils sont dans leur contexte, puisqu'ils sont étudiants. Voilà, donc ils savent très bien ce qu'ils ont à faire là. Et voilà, donc la situation est posée très clairement. bah, c'est une situation troublante. Moi, je sais que ça m'a troublée beaucoup parce que je suis enseignante, mais pas d'histoire de l'art, du théâtre. Et je fais ça parce que j'ai tellement aimé me trouver à l'endroit de celui qui étudie. Alors, au bout d'un moment, on n'a plus l'âge d'étudier, on n'a plus le droit. Donc, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de devenir enseignant, de passer de l'autre côté. Mais grâce à ça, on continue à apprendre.
Qu'est-ce que vous avez étudié, justement, Valérie Dréville? Qu'est-ce qu'on apprend dans votre métier?
On apprend...
C'est un cours de théâtre que vous avez suivi?
Si j'ai suivi un cours de théâtre, ouais. Ah oui, j'en ai suivi beaucoup. Plusieurs. mais les cours de théâtre continuent. Quand on est comédien, ça ne s'arrête jamais. On étudie, c'est l'étude du comportement humain, je dirais. L'observation très précise des comportements humains dans la société contemporaine. Je dirais ça.
Et par exemple, pour ce film qui sort aujourd'hui, suite armoricaine, où ça passe aussi par des sentiments intérieurs, comment on travaille ce personnage? Parce qu'on est effectivement confronté à un passé, confronté à des gens qui ont vieilli, à des repères qu'on croyait ne plus jamais retrouver, mais qui sont là. Et donc, ce qui pousse le personnage que vous incarnez, Françoise, à faire... sans le vouloir peut-être, le bilan de sa vie.
Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit un voyage dans le passé, bizarrement. J'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Et que souvent, les voyages retour sont en fait des arrachements. Parce que passer cette période, sa vie change. Donc ça, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas, qui regarde pas vers la vitre arrière, mais plutôt devant.
Vous-même, Valérie Dréville, vous avez grandi où?
J'ai grandi près d'Auvers-sur-Oise.
Ça vous arrive d'y retourner?
Tout le temps. Il y a encore la maison de famille là-bas.
Et alors?
Bah, et alors,
quelle impression ça vous fait quand vous retournez, que ce soit pour des vacances, pour un, j'allais dire un pèlerinage, peut-être que
le mot est trop fort. Non, c'est une maison où je peux aller le week-end. Bah, j'arrive pas à m'en défaire, quoi. C'est-à-dire, là-bas, il n'y a plus personne, mes parents sont morts, mais j'arrive pas à ne plus aller là-bas, c'est vrai, oui. Je ne sais pas exactement pourquoi.
Et les gens qui ont grandi avec vous, vous les revoyez dans...
Pas beaucoup, non. Il n'y en a plus.
Comment faites-vous pour choisir un rôle, que ce soit pour le cinéma ou pour le théâtre, Valérie Dréville?
Oh là, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règles. C'est très intuitif.
C'est le texte, c'est le rôle, c'est le personnage ou c'est le metteur en scène, c'est l'équipe qui va vous accompagner?
Non, je dirais que c'est un peu tout ça, mais c'est surtout l'aventure. On sent si c'est s'il y a quelque chose d'essentiel, de nécessaire dans une proposition ou pas. On le sent. Enfin, on peut se tromper aussi.
Ça vous arrive souvent de vous tromper?
Ça m'est arrivé, oui.
Ouais.
Ouais, bien sûr. Heureusement pour moi.
Bien sûr. Et comment on ressort de ce genre d'expérience plus forte?
On apprend des choses de toute façon. On apprend. Mais c'est vrai que le cinéma, j'ai pas une grande expérience. Mais au théâtre, il faut faire attention parce que on est très exposé et on peut se faire mal, quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on choisit. Peut-être avec le temps aussi davantage. Je sais
mais
pas,
pourquoi quand vous le dites pour le théâtre et pas pour le cinéma?
Peut-être parce que j'ai une plus grande expérience de théâtre. Le cinéma, je suis un nouveau-né, moi, dans le cinéma. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait des choses, mais vraiment comme ça, en dilettante, en passant.
Comment s'est passé le tournage de Suite
Armoricaine? À part Suite Armoricaine.
Oui, alors justement, ça s'est passé comment ce tournage? Et combien de temps ça vous a pris?
C'était long parce qu'on a travaillé sur plusieurs saisons, d'automne à printemps. Mais c'était bien parce que cette discontinuité permettait justement un travail d'intériorisation. Je dirais que Françoise est un personnage qui se travaille en creux, par intermittence, comme ça. Et ça me convenait bien de travailler, de tourner, et puis de prendre le temps de réfléchir, de penser, de rêver, de faire des recherches, de rediscuter avec Pascal, de remettre en question des choses, de travailler les scènes, les situations. Je faisais du théâtre par ailleurs. Et ça me convenait bien, ce passage d'une chose à l'autre.
Et vous connaissiez Rennes avant de tourner ce film ?
Je le connaissais pour avoir joué au TNB.
Oh bah très bien. Donc, le questionnaire d'un autre jour, ce sera autour de cette ville bretonne. Allez, c'est le questionnaire. Vous piochez. Première question, Valérie Dréville.
La plus belle librairie de Rennes, mais je ne sais pas, j'étais tout le temps à l'université.
Deuxième question.
L'endroit le plus sympathique de Rennes, je dirais la rue de la Soif.
Pourquoi ?
Parce qu'on y boit.
Troisième et dernière question.
Le meilleur endroit pour finir la nuit et refaire le monde, à Rennes ou en général ?
À Rennes, restons à Rennes.
Ah, à Rennes.
C'est un beau film sur Rennes d'ailleurs, c'est bon de le rappeler suite à Armored Weekend.
Je dirais l'université de Villejean.
Ah ouais,
pourquoi ? Ah ouais, c'est magnifique.
Qu'est-ce qu'elle a de magnifique cette université ?
L'ambiance qu'il y a, c'est un endroit de vie.
Peut-être pas la nuit, non ?
Peut-être si, justement, et quand il n'y a personne.
Merci d'être passé ce matin. Je vous laisse faire le générique de fin avec votre si jolie voix, Valérie Dréville.
Ici.
Oui.
C'était un autre jour et possible, une émission quotidienne de Tefik Hakem qu'on peut réécouter ou podcaster en se rendant à la page de l'émission disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isebert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre, avec ce matin à la technique, Claude Niort.
Merci beaucoup, on se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée à Palmyre, en compagnie d'Annie Sarthe-Foria. D'ailleurs, il sera aussi question de Palmyre aujourd'hui à 11h dans l'émission de Florian Delorme, Culture Monde et de l'archéologie dans les pays en guerre. Donc demain, suite de notre série Retour à Palmyre et en deuxième partie, je reçois Corinne Royer pour son roman édité chez Actes Sud et leurs baisers au loin les suivent. Bonne matinée, à demain.